5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour Gérard.
Et bonjour à tous. Nous avons choisi pour cette émission d'Orion Chemin de l'Espace de vous parler de notre prochain spationaute. Qui n'est d'autre que Thomas Pesquet. On a déjà évoqué son nom dans l'émission avec vous, Jean-Michel. Mais là, le départ approche puisqu'il est prévu de partir...
Pour le 15 novembre.
Pour le 15 novembre.
Voilà.
Alors, il part dans ce que l'on appelle la mission Proxima. Alors, pourquoi Proxima d'abord ?
Alors, Proxima, c'est pas lui qui l'a choisi. Il y a eu un concours qui a été lancé par l'ESA. Et c'est un jeune garçon du Sud-Ouest, je crois qu'il a 14 ans, qui a trouvé ce nom-là, donc qui a été choisi par Thomas Pesquet. Pour dire aussi que ces missions, tous les astronautes français qui sont partis ont toujours eu comme titre de mission des noms d'étoiles ou de constellations.
C'est pas le cas pour toutes les autres missions italiennes, russes.
Ah non, après, donc voilà, les
donc
Russes.
Notre patte à nous.
Le petit coup de patte de l'ESA.
Français,
voilà.
Enfin européen. Et
voilà.
Des étoiles.
Je pense à la mission Cassiopée de Claudie Henure. Voilà.
Alors Proxima, ce n'est pas une étoile non plus anodine.
Non, c'est la plus proche étoile de nous, Proxima du Centaure.
Proxima
voilà.
Du Centaure, qui est la plus proche,
mais
malgré tout, quand même, assez loin.
On n'est encore pas prêt d'y aller.
Et Thomas Pesquet, il assurera la mission, mais il ne verra rien de Proxima, près en tout cas.
Il apercevra la constellation du Centaure, puisque à l'occasion de sa rotation autour de la Terre, il aura chance de voir les étoiles de beaucoup plus près que nous.
Alors Thomas Pesquet va faire partie aussi, et c'est l'histoire retiendra ça, fait de la mission. Elles ont une chronologie et un numéro, ces missions.
Oui, donc l'expédition 48-49, actuellement on est l'expédition 46-47, parce qu'on est toujours à cheval sur deux missions. Quand il y a rotation d'équipage, l'expédition 46 part, mais l'expédition 47 est en cours. Voilà, c'est le nom des expéditions de l'ISS.
D'accord, donc mission Proxima, mission 48-49. Assuré par notre Français, Cocorico, voilà. Thomas Pesquet, on pense beaucoup à lui, bien sûr, et on aura l'occasion d'en reparler. Il part pour 6 mois.
Voilà.
C'est une expérience... Il va pour quoi faire, finalement ?
Alors, il a beaucoup d'expérience dans le domaine de la radiation et de la physique. Sont prévues 150 à 200 expériences.
Donc, il est sur de la science pure, pratiquement. Là.
Oui, de la technologie qui permet aussi de surveiller ses signes vitaux pendant qu'il travaille.
Il y a du médical dans son...
Il va travailler sur la physique des fluides, par exemple. Ce sont des choses qui sont très techniques. C'est pour ça que la préparation est très longue. Il va travailler aussi sur un projet qui s'appelle sur l'horloge Pharao. C'est la future horloge atomique. Donc, pour vous dire, après la seconde, on est à 16 décimales. Donc,
d'accord.
Vous voyez la précision de l'horloge atomique.
Thomas Pesquet, on connaît le nom, on le connaît peu. J'allais dire, quelles sont ses origines, quelle est sa formation
Alors, il est né en 78 à Rouen. Il a été sélectionné en 2009 par l'ESA parmi 8413 candidats.
D'accord, c'est sélectif.
Voilà, c'est sélectif. 8 ans après, donc notre précédent astronaute qui s'appelait Léopold Ehrhardt.
Ehrhardt, qui est notre petit chouchou à
Orion,
chemin de l'espace.
À Orion, nous avons eu l'occasion de passer une journée avec lui, une journée extraordinaire.
Ouais.
Alors Thomas Pesquet aussi, donc moi j'ai eu la chance de passer un bon moment avec lui, ça remonte un petit peu à vieux puisque c'était le 12 avril 2011 à la Cité de l'Espace à Toulouse, on fêtait les 50 ans de Gagarine.
Alors il est connu, puisque quelques émissions quand même sur lui depuis quelques mois, il est bien entendu connu comme étant pilote de ligne, en particulier on l'a vu à bord d'un 380 je crois.
Oui, donc...
Donc sa formation par rapport aux expériences qu'on évoquait et cette sélection rigoureuse, est-ce que le métier est important ? Est-ce que sa formation d'ingénieur par exemple est important ou est-ce qu'il y a d'autres...
Certainement sa formation d'ingénieur aéronautique a été un atout. Mais bon, c'est pas l'essentiel. L'essentiel sont des capacités physiques, intellectuelles, des capacités humaines, des capacités psychologiques.
Maîtrise de soi.
Énorme.
Ouais.
Bon, je veux raconter des petites anecdotes. Donc, vous voyez, on était en 2011. Thomas Pesquet nous racontait, donc, avec notamment Samantha Cristoforetti, l'italienne, femme qui a passé le plus de temps dans l'ISS. Donc, ils étaient au large de la Sicile et ils avaient fait une expérience un peu survie pendant quelques jours. Et là, ils étaient complètement crevés, on va dire, hein, parce que ce sont des êtres humains, ils ont de la fatigue aussi. Donc, et l'hélicoptère vient les récupérer. Et vous savez, ce sont des hélicoptères militaires de transport de troupes. Et au milieu de l'hélicoptère, il y a une trappe qui s'ouvre. Et là, donc, bien crevés, ils s'assoient. On les fait mettre tous ensemble autour, là, pour qu'ils puissent le temps qu'ils récupèrent. Et au moment où ils s'y attendent le moins, le pilote ouvre la trappe et les jette à la mer.
Ça réveille.
Donc là, ben, on vérifie un peu comment ils réagissent. Bon, ça s'est très bien passé. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes en 2011. Thomas Pesquet en formation. Nous sommes en 2016. Il est toujours en formation.
Donc, depuis 2009, 7 ans de formation avant, effectivement, de partir. Tout le monde ne part pas. Il faut encore de la chance.
Il faut de la chance. Donc, ils étaient une promotion de 10. Donc, voilà. Après, on part ben, en fonction des places dans l'ISS. Donc ça se négocie avec l'international de la station, c'est-à-dire ben, avec les Russes, les Américains, l'ESA, etc. Donc, et puis bien sûr, il y a un coût. Hein. Le coût est très important dans la prise en charge d'un départ pour l'ISS.
Donc effectivement, un Français aujourd'hui, ben, c'est parce que c'est une place pour un Français qui est préparé, payé aussi.
Ce sont des choix de la France et de l'ESA. Hein, ouais. Donc, parce qu'on peut investir dans le vol humain, mais on peut investir dans d'autres missions.
Alors il part dans l'ISS. Bon, on a eu l'occasion beaucoup de parler de l'ISS dans cette émission. Actuellement, il va rejoindre un équipage qui sera composé donc de 6 personnes. Actuellement, c'est qu'il va rejoindre qui ? Des Russes, des Américains ?
Alors actuellement, il y a des Russes, des Américains. Voilà. Donc après, en fonction des rotations d'équipage, alors il est prévu, bon, bien sûr, toujours des Russes et des Américains, mais il y a des Japonais, il y a des Italiens. Il y a des Danois, actuellement ben, il y a un Anglais, hein, Tim Peake, voilà.
Donc il monte avec le lanceur, ça
Soyuz.
Va être une Soyuz, il va monter dans Soyuz, l'habitacle, enfin
alors,
le véhicule.
Il monte, il aurait pu partir avant, hein, parce qu'il a été équipage de réserve. Parce que lorsqu'on va lancer 3 hommes en direction de la station spatiale, il y en a toujours 3 autres qui sont en réserve.
Qui sont prêts au cas où.
Hein, donc il a déjà fait partie d'un équipage de réserve, il aurait pu partir il y a à peu près 6 mois. Hein. Il suffit qu'au moment de partir, eh ben, l'astronaute ait un gros rhume ou ait, ben, un petit souci médical, eh ben, bien sûr, c'est décalé.
Donc à novembre, ils sont à 3 à monter dans le Soyouz et ils vont rejoindre les 6 personnes ou bien 3 sont
alors,
déjà partis.
3 sont redescendus, donc oui. Il y en a 3 qui sont en attente là-haut et ils rejoignent les 3. Donc ils reportent l'effectif à 6, ce qui fait qu'on ça, on parle d'expédition 46-47, 47-48, 48-49.
Voilà. Donc, l'équipage, aujourd'hui, c'est pratiquement lisse comme effectif. C'est toujours 6 personnes.
6 personnes. Alors, on a eu monté à beaucoup plus, à 11 ou 12 du temps des navettes spatiales qui permettaient donc, des rotations rapides d'équipage.
Alors, on met combien de temps pour aller dans l'ISS ?
Oh, c'est très rapide. Avant, donc, avec le Soyouz, on avait une procédure donc, de mise en orbite autour de la Terre pendant une journée et demie. Aujourd'hui, c'est très très rapide, c'est entre 4 et 5 heures.
Jean-Michel, donc notre Thomas Pesquet, nous sommes en novembre, vient de décoller à bord de son Soyouz, ça va très vite, le temps de se remettre et on est pratiquement à l'approche de l'ISS. Alors, comment ça se passe, cette approche, cet arrivage, cet arrimage et cette entrée dans la...
Imaginez-vous, on tourne à 28 000 km/h. Il faut que le vaisseau qui arrive à 28 001, on va dire, puisse s'accrocher rapidement à la station, sans choc, sans heurts. Donc, tout ça, c'est géré d'une façon informatique. Et hop, accrochage. Dockage, hein, on est docké.
Oui. C'est une manœuvre pas si évidente que ça, puisque récemment, un ravitailleur avait raté sa cible.
Ça peut arriver, oui.
Mais alors, quel est le risque, là? C'est de passer à côté
Le risque, si...
Et de continuer
Non. Quand même pas. Mais si vraiment il y avait une panne, on ne sait jamais, tout aussi près, c'est retour sur Terre. Hein, voilà, c'est la procédure la plus rapide.
Bon, alors donc, on est arrimé, il y a un sas, l'entrée.
Il faut dépressuriser, il faut repressuriser, il faut vérifier tout ça. Donc là aussi, il a l'habitude en tant que pilote de ligne de vérifier la checklist, toutes les procédures.
Mais là, voilà. Il y a quand même la combinaison, il y a tout.
On ouvre la porte et hop, à bras ouverts, on est accueilli par les trois qui sont...
Alors ça se passe comment? Champagne, vodka, whisky?
Non, ni champagne, ni vodka, ni whisky. L'alcool est interdit.
Est interdit,
voilà, d'accord. Bon, DSS. Donc, c'est des retrouvailles chaleureuses, hein, avec de l'américain, du russe. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler aussi le russe et l'américain.
Ouais,
et l'anglais, bien sûr.
Bon, on s'y fait vite. L'ambiance, il y a une atmosphère particulière. Tout est artificiel. Il y a des problèmes d'adaptation particuliers.
Oui. Certains astronautes ont des problèmes d'adaptation malgré tout leur entraînement. Ils ont des vomissements, le choc aussi du décollage, avec l'accélération des G. En ce moment où nous parlons, là, peut-être que Thomas Pesquet est à Houston en train de faire de la centrifugeuse avec 9 fois son poids, 9 G. Alors, comme il dit, quand on sort de la centrifugeuse, on a la peau des joues qui est toute distendue, tout ça. Mais bon, ici, lui, il s'y sent bien.
Lifting efficace.
Voilà.
Et alors
Donc il rentre à l'intérieur de l'ISS, donc à état d'apesanteur, bien sûr.
Oui.
L'ambiance de l'ISS avec cette ventilation permanente, température de 24 degrés.
Des bruits particuliers.
Oui, ventilateur qui renouvelle l'air, qui recycle l'air en permanence. Voilà.
Et puis, le premier regard sur la Terre, être un moment quand même extraordinaire.
Je pense, oui. Son premier regard aller dans cet instrument qu'on appelle la cupola, qui permet de regarder la Terre d'en haut. En quelques minutes,
On tourne très vite autour de la Terre. Voilà. On va refaire l'émission sur l'ISS, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas.
1h32 pour faire le tour.
Donc le jour, la nuit.
Ça va très très vite.
Le petit prince est battu, presque.
Donc je pense que ça doit être émouvant.
Comme
dit Thomas Pesquet lui-même, je ne vais pas là-haut pour me faire plaisir.
Oui, mais enfin bon, si en plus il y a du plaisir, le lui souhaite en tout cas. Il y a dans sa mission, on l'a vu, des expériences médicales, scientifiques, etc. Il y a aussi la possibilité de sortir de l'ISS de se retrouver complètement dans l'espace finalement.
Il peut être amené à faire ce qu'on appelle des EVA, extravéhiculaire activity. C'est prévu dans la formation. Mais ce n'est pas sûr qu'il en fasse. Ça va dépendre du maintien de la station, des procédures, des choix. Hein, parce qu'à l'époque, on peut très bien choisir des Russes pour sortir ou des Américains pour sortir, en fonction des besoins de la station. Donc, pour ça, il se prépare. Alors, son scaphandre, il a un scaphandre adapté
à
sa taille.
Pour sortir, il y a un certain nombre de risques, de dangers. Comment se protège?
Avec son scaphandre EMU. Extravéhiculaire Mobility Unit.
Voilà, vous saurez tout.
C'est un scaphandre qui n'est pas d'une seule pièce, puisqu'on assemble les bras, les jambes, le torse, la tête. Une pression de 0,3 bar avec de l'oxygène pur, avec une petite ventilation pour éliminer le dioxyde de carbone, avec des circulations d'eau pour refroidir ou réchauffer en fonction si on est au soleil ou à l'ombre dans l'espace. Donc, voyez.
Et des liaisons radio, bien sûr.
Des liaisons radio, des alarmes. Donc en permanence, toutes ces fonctions vitales seront reliées par ordinateur à l'intérieur de la station, seront surveillées et en même temps surveillées sur Terre. Donc des alarmes s'il arrivait quoi que ce soit. Donc vous voyez que c'est un scaphandre qui est vraiment très très compliqué et où il fait actuellement des entraînements en piscine.
D'accord. Donc voilà, un beau programme. Mais on sort pour quoi en principe dans, c'est pour des questions de maintenance, c'est
Alors
pour
des... on peut sortir pour des tas de choses. Ben, par exemple, un panneau solaire endommagé, il faut les réparer.
C'est ça, voilà. Hein. Il faut y aller.
Il y a eu des fuites d'ammoniac, le système de refroidissement de la station. Donc fuites d'ammoniac, donc des astronautes sont sortis. On fait des réparations, donc avec des pièces de rechange qui sont montées par les cargos ravitailleurs. Donc actuellement, ben, y a du monde, y a beaucoup de cargos ravitailleurs accrochés à la station. Donc, elle est sortie, c'est pas une sortie d'un quart d'heure. Hein. La sortie, elle va être enfiler le scaphandre.
Donc, oui, c'est pas une petite manœuvre
non,
du tout.
Non, hein, c'est deux heures. Et la sortie dure au minimum 6 heures. On
six
est 6 heures dehors dans l'espace. Alors imaginez les levers et couchers de soleil, c'est comme le Petit Prince.
Oui, oui, c'est de la maintenance poétique, bucolique, tout à fait originale. Il y a effectivement un certain nombre de véhicules. Enfin, on rappelle que l'ISS est quand même un gros mécano et avec un certain nombre de véhicules ou de.
Alors rapidement, gros mécano fait 500 tonnes, la taille d'un terrain de foot, avec une immense poutre au milieu qui s'appelle the thrust, hein, et donc avec des ports d'attache.
Et des modules qui sont
des
qui
modules américains,
à tel ou tel pays, voilà.
Harmony, Destiny, Unity côté américain, voilà.
Et alors des petites ports d'attache, puisqu'il faut y venir, il faut en repartir, il faut alimenter. Il faut amener du personnel, donc il y a des véhicules. Et aujourd'hui, ces véhicules, ils sont en assez grand nombre, finalement.
Oui. Alors, côté russe, il y a deux Progress, donc ce sont des cargos ravitailleurs qui amènent du fret, hein, simplement du matériel. Les deux Soyouz, hein, puisque 2 x 3 personnes, ça fait 2 Soyouz, hein, 2 x 3 places, en cas d'incident.
Et oui, il y en a toujours.
C'est arrivé plusieurs fois qu'une menace pèse sur la station, rencontre avec un objet volant non identifié, on évacue pas, donc ils sont toujours prêts à redescendre sur Terre.
Et donc, le Soyouz est disponible et la sortie et le retour peut être, j'allais dire, décidé très très rapidement.
Très rapidement.
Ouais. Il faut combien de temps pour passer
S'il y avait une alarme, c'est quelques minutes, il rentre dans le Soyouz, le temps de vérifier toutes les procédures, on se décroche et on s'en va.
D'accord.
Donc ça n'est jamais arrivé, hein, mais c'est prévu.
Donc il y a toujours ces deux Soyouz-là, il y a les deux Progress, hein, c'est ça que...
Deux cargos Progress actuellement, parce qu'aussi il y a une capsule Dragon de SpaceX.
Alors Dragon, définissons un petit peu.
C'est une petite capsule qui ravitaille pour l'instant l'ISS et qui est prévue donc, pour amener du fret. Et à terme, peut-être d'amener des hommes.
D'accord, il pourrait, parce qu'actuellement, il n'y a que Soyouz qui transporte des hommes. Et puis, il y a également Cygnus.
Le cargo Cygnus, voilà.
Alors, c'est toujours pareil, du fret.
C'est du fret, sorti Orbital Science, c'est une société privée américaine. Donc, la NASA passe des contrats avec des sociétés privées américaines pour amener donc, du fret et avec les Russes pour amener des hommes.
Donc là, en fait, c'est des sociétés privées de transporteurs.
De transporteurs.
D'accord, un peu, c'est les camions du ciel.
Tout à fait.
Alors, en novembre prochain, en principe, Thomas Pesquet, spationaute français, rejoindra l'ISS. Donc, on a vu qu'il avait un certain nombre d'expériences scientifiques, médicales, qui pouvaient sortir aussi, se préparer à sortir.
Oui. Une petite anecdote, j'ai lu cette semaine qu'il arrivait à se faire des prises de sang tout seul.
Voilà, donc effectivement, et je pense qu'il doit y avoir une formation à l'automédication ou un chirurgien, enfin quelqu'un qui a quelques notions.
Tout à fait.
Même si on peut rentrer rapidement
oui.
Hein, pour, je ne sais pas, une crise.
J'ai une petite anecdote.
Par exemple.
Il y a eu un astronaute russe qui a eu un problème de blocage urinaire et qui est obligé de rentrer sur Terre. Hein. Voilà.
Alors, j'ai vu que dans la mission, il y avait, on parlait d'un module gonflable, Biglop, c'est ça, à tester.
Alors, c'est le module, il s'appelle BEAM, B-E-A-M, de la société américaine Biglop. C'est un module gonflable qui a été monté cette semaine à l'ISS, qui va être déployé, accroché à l'ISS et que certainement Thomas Pesquet aura l'occasion de tester.
Alors, module quoi? Ben, un module pour travailler à l'intérieur.
Ben, pour monter dans l'espace, si vous voulez, on monte actuellement des pièces métalliques avec des tas de matériaux composites testés et fiables dans l'espace. Et il y a une société américaine qui propose donc des modules gonflables. Cette société qui s'appelle Biglove. Donc on a monté un module plié qui fait quand même 1360 kilos. Qui va être déployé et accroché à la station spatiale pour être un module soit d'habitation, soit de travail.
Voilà, donc c'est un volume supplémentaire sur le grand mécano.
Tout à fait.
Simplement, c'est une composition souple au départ, enfin gonflable en tout cas.
Oui. Test grandeur nature, on va voir comment se comporte ce module.
Et donc ce module et ce test attend Thomas Pesquet.
Il y aura ses collègues qui vont le tester avant lui, mais lui, si tout fonctionne bien, il aura l'occasion d'aller faire un petit tour.
Bien, voilà une mission. Donc, on aura bien entendu l'occasion dans les mois prochains de suivre effectivement cette aventure de Thomas Pesquet et de parler de lui. Peut-être communiquer avec lui, puisqu'on communique avec l'ISS.
Alors,
les écoles en particulier.
Aujourd'hui, où on enregistre cette émission, il y a l'Américain Tim Peake qui fait une conférence avec des professeurs sur tous les pays du Nord-Europe.
Alors, on peut signaler d'ailleurs à tous les professeurs de Haute-Loire, et d'ailleurs, mais enfin de Haute-Loire, que l'on peut monter un programme avec la NASA et demander un échange téléphonique. On a vu ça, d'ailleurs, à Châtel-Guyon, pendant 8 minutes.
Tout à fait. Il y a beaucoup de collèges et de lycées français qui ont monté un projet avec la NASA. Donc, par contre, c'est quand même long. C'est minimum une année à deux années de préparation. Et lorsqu'on a la chance d'avoir un astronaute français en orbite qui passe au-dessus de la France, on peut avoir pendant 5 à 8 minutes un petit échange avec lui.
Alors, à tous nos amis enseignants, c'est une idée, peut-être, pour les mois à venir, derrière la causerie de 8 minutes, évidemment, il y a un plan pédagogique
et
un travail.
Si les enseignants sont intéressés par cette idée, ils peuvent nous contacter au niveau du groupe Orion.
Voilà, sur une approche scientifique, pas fréquent aussi d'avoir des animations scientifiques. Alors, c'est le 10e français. Il y a eu près de 500-600 astronautes, spationautes, cosmonautes qui ont vécu l'espace.
Qui ont vécu l'espace. Alors, aujourd'hui, si on dépend, le compteur des vols habités, il est à plus de 1200. Mais comme certains y sont allés plusieurs fois, en astronautes différents, on a 550, quelque chose comme ça.
550 personnes différentes qui sont allées dans l'espace.
Et donc, de toute nationalité.
Oui, de toute nationalité, bien sûr. Et donc, Thomas Pesquet serait le 546e ou 50e.
Voilà.
On ne sait pas à ce moment-là où on en sera. Pourquoi si peu de Français? On a évoqué quand même un peu les
coûts de formation.
Les coûts de formation et les décisions.
Les décisions qui sont politiques, administratives, scientifiques.
Des États, des pays, et de l'Europe, en l'occurrence. Alors... il y a une question que l'on pose souvent, c'est comment on revient de l'espace? Parce que le départ fait rêver, l'aventure passionne. On est comment? Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? On a la grosse tête? Au contraire, on est tout à fait humble d'avoir vu la Terre de si loin? On a une conscience écolo qu'on n'avait pas forcément en partant?
Alors moi, je vais vous faire la réponse, puisque j'ai eu la chance de rencontrer différents astronautes, bien sûr les Français, mais de rencontrer un Russe, de rencontrer un Américain qui a marché sur la Lune. Et ils disent tous la même chose, la Terre est unique, elle est belle, elle n'a pas de frontières. Ça, c'est vraiment le filigrane qu'ils ont tous dit dans leurs conférences, dans leurs rencontres, quand on a quelques mots d'échange avec eux. Cette beauté de la Terre, qu'il faut la protéger, qu'elle est fragile et qu'elle n'a pas de frontières.
Et cette fragilité, ils l'aperçoivent à l'ISS, c'est quelque chose qui est... je pense qu'on mesure aussi un certain nombre de choses.
Ils ont un certain travail de mesures scientifiques, de données, qui leur montrent que notre Terre s'abîme. Le réchauffement climatique, ça, puisque la fonte des glaces, ça, c'est quelque chose qu'ils voient en direct. Donc là, ils sont très sensibles à tout cela. Alors après, comment ils reviennent? Ils vont reprendre leurs activités, une fois qu'on a passé quelques mois dans l'espace. Alors des fois, on peut se repréparer et refaire une deuxième mission. Et puis après, on peut se recycler, on va dire, dans des activités, comme je pense à Jean-François Clairvoy, qui, lui, il fait des vols paraboliques, avec sa société basée à Bordeaux, qui s'appelle Novespace. Si vous voulez faire un petit vol parabolique avec Jean-François Clairvoy, c'est possible. Donc, vous allez sur le site de Novespace. Je pense à Philippe Perrin, lui, il est pilote d'essai chez Airbus. Je pense, Jean-Loup Chrétien, le plus ancien de nos astronautes, bien sûr, lui, il est retraité depuis longtemps, donc il s'adonne à sa passion qui est la musique. Claudie Agnoret qui fait des conférences, Claudie Agnoret qui était ministre aussi. Et puis tous ces gens-là travaillent aussi au sein d'organismes scientifiques. Notamment, je voudrais vous citer, puisque c'est la deuxième fois que j'avais rencontré Thomas Pesquet, avec le CADMOS. Le CADMOS, c'est le Centre d'aide au développement des activités en micro-pesanteur et des opérations spatiales. Donc... Une fois qu'on est allé dans l'espace, qu'on a vécu des choses, on travaille avec ce CADMOS qui regroupe des astronautes de tous les pays. On a une très bonne coopération au CADMOS avec les Russes. Et là, on va voir un peu comment on se recycle, comment on reprend pied sur Terre.
On peut préciser aussi, comme nous disait Léopold Earhart, c'est que dans leur mission, il y a aussi une restitution, un rendu, un retour à la population.
Tout à fait.
Ce sont des missions qui sont financées avec de l'argent public. Et donc, il y a effectivement cet aspect effectivement dans leur mission. Donc, la mission ne s'arrête pas quand ils retournent sur Terre, mais effectivement... Ils sont parfaitement accessibles, donc professeurs ou autres, c'est un appel. Essayez, intéressez vos élèves effectivement à cette actualité du ciel, puisque avec ce spationaute Thomas Pesquet qui va partir en novembre, ce sera dans l'actualité. Un dernier mot, le blog de Thomas Pesquet,
oui,
pour en savoir plus.
Thomas Pesquet en un seul mot, .esa.int, donc ça c'est le site de l'ESA. Et puis vous avez avec tout Twitter, Facebook, Thomas Pesquet communique régulièrement. Répond aux questions des gens qu'il sollicite.
Eh bien, Jean-Michel et tous nos auditeurs, j'en suis sûr, penseront très fortement à Thomas Pesquet en novembre et tous nos voeux l'accompagnent et on suivra son aventure.
Avec plaisir.
Voilà. Au revoir à tous. Merci.
5, 4, 3, 2, 1. Top. Allumage Vulcain. Décollage.